sécurité comme ça spéciale, je suis accompagné de Nicolas Duguay. Est-ce que tu peux te présenter?
Oui, bonjour. Alors, oui, Nicolas Duguay, je suis président fondateur de Seven Island Defense and Intel. Auparavant, en fait, c'est une toute jeune firme, en fait. Je viens de fonder ça il y a à peine un an. Auparavant, j'occupais le poste de directeur général de INSECM, le cluster canadien de la cybersécurité. Et avant tout ça, en fait, j'ai commencé ma carrière, en fait, comme journaliste à Radio-Canada pendant une dizaine d'années, moins 10-12 ans. J'ai aussi œuvré dans le secteur du renseignement, en fait. Renseignement privé, en fait, dans différentes firmes, on faisait beaucoup de choses nationales et internationales. Et de là, ça m'a dirigé tranquillement vers la cybersécurité pour INSECM.
C'est vrai, d'ailleurs, c'est un drôle de chemin d'avoir été là, surtout que tu as passé comme journaliste, puis c'est justement, tu me taquinais sur mon setup un petit peu. Mais ton passage à INSECM, justement, était une chose où on s'est rencontrés justement sur INSECM, puis moi, je trouvais que c'était une très belle tribune, ça, puis tu as acquis beaucoup de connaissances du milieu avec ça. Ça a été je présume pour toi que c'est un très beau passage de connaissances. Et de celui-ci, mais justement, tu as fondé Seven Islands, qui est une continuité de ça, mais dirigée spécifiquement pour répondre à des besoins qui sont criants, autant de niveau peut-être européen que canadien.
Oui, ben en fait, il y a effectivement une bonne cohérence en fait là-dedans. En fait, c'est vraiment, puis tu as mentionné continuité, puis c'est vraiment ça en fait. Avec INSECM, en fait, au courant des dernières années, on a fait énormément de prospection, de cartographie d'écosystème. En fait, on a beaucoup. En fait, il faut juste faire un pas de recul. En fait, INSECM, le mandat, en fait, était vraiment de faire, de promouvoir l'écosystème canadien de la cybersécurité et aider des entreprises qui avaient peu de moyens, parce qu'on a un écosystème en cybersécurité au Canada qui est essentiellement un écosystème de PME, donc de petites organisations qui ont beaucoup d'ambition, très peu de moyens, en fait, et qui passent souvent sous le radar des grands donneurs d'ordre, en fait. Donc, un des mandats fondamentaux chez INSECM était d'aider justement ces entreprises-là à se faire voir par les grands acheteurs nationaux et internationaux. Donc, bref, en faisant ça, en travaillant beaucoup à l'international aussi, on travaillait beaucoup avec Global Affairs pour cartographier les différents marchés, différents écosystèmes mondiaux, ben ça m'a permis de m'outiller, en fait, avec une bonne base de connaissances, une bonne base de distinctions entre les différents marchés, entre les différents écosystèmes, de voir un peu aussi qu'est-ce qui fait que certaines entreprises fonctionnaient super bien à l'international ou même au national, et certaines entreprises échouaient. En fait, des fois, c'est juste au niveau de leur compréhension de certaines subtilités. Donc, Seven Island, en fait, essentiellement, c'est quoi? C'est de mettre à la disposition d'organisations qui sont des clients essentiellement, ces réflexes-là, en fait, c'est cette connaissance-là, mais pas juste le donner pour la cybersécurité. En fait, notre entreprise, essentiellement, vise cybersécurité, mais aussi tout le secteur de la défense et aussi le secteur des outils, ce que j'appellerais les outils d'intelligence, en fait, les outils de renseignement, en fait, donc pour des marchés qui sont plus nichés, bien entendu, mais qui sont néanmoins essentiels et qui sont aussi des marchés très, très intéressants pour des petites organisations, en fait, des petites organisations privées, en fait.
Est-ce que tu peux donner un exemple de marché, parce que tu sais que tu ne t'intéresses pas exclusivement au marché canadien en tant que tel? C'est beaucoup plus vaste que ça. Est-ce que tu peux donner un exemple de justement le marché qui est dans la portée de ce que tu fais?
Un bon exemple de marché, en fait, il s'est passé, sans faire de mauvais jeu de mots, là, en fait, une explosion de la demande en Ukraine, et dans tout ce qui est limitrophe de l'espace russe, en fait, donc les pays baltes, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, Ukraine, bien entendu, où on a soudainement énormément de besoins. Ils se développent eux-mêmes un écosystème très innovant là-bas en raison justement de la pression à leurs frontières. Donc, c'est des marchés qui sont dans l'urgence. C'est des marchés qui sont très singuliers. En fait, c'est des marchés qui ont une rupture de paradigme par rapport à nos traditions, par exemple, de procurement en termes de défense ou même de renseignement ou de cyberdéfense. Donc, d'avoir les bons outils, d'avoir les bonnes connaissances, en fait, sont essentielles, parce qu'il y a des entreprises, en fait, qui arrivent ici. Par exemple, il y a des entreprises canadiennes qui développent des produits dans un schéma de pensée très, c'est plate à dire, mais très 2022, là, en fait, ou très 2020, qui arrivent avec des produits qui pensent très, très pertinent pour la situation, par exemple, en Ukraine. Et on se rend compte, malheureusement, qu'il n'y a aucun avenir pour eux là-bas. C'est juste pas possible parce qu'ils ont oublié de tenir compte, ou en fait, ils n'ont pas oublié, ils n'ont pas tenu compte de la réalité qui dit que ça prend des produits qui sont beaucoup plus abordables, qui sont beaucoup plus accessibles, qui sont beaucoup plus, que tu es capable d'en produire rapidement avec et utilisables par des gens sans grande formation. Plein de choses qui sont pratiquement l'inverse de la tradition de produits de défense ou de cyberdéfense. Donc, c'est ce qu'on essaie de voir un peu avec eux, là. Mais oui, ces marchés-là sont particulièrement intéressants, en fait, parce que même pour moi, c'est des... Je vais là-bas, par exemple, en Ukraine, et j'en reviens avec vraiment des apprentissages, vraiment quelque chose de super intéressant, là.
Ouais, j'imagine, de toute façon, c'est une des raisons pourquoi je vous accompagne dans vos missions. C'était justement pour enrichir ma connaissance des autres marchés, parce que de ceux-ci, on est capable de s'améliorer soi-même et justement de ramener à la maison un certain niveau de connaissance. Donc, si on prend l'exemple du marché ukrainien, donc dans ce cas-ci, si tu viens faciliter des compagnies principalement canadiennes, j'imagine, à connaître le marché et à aider à, si c'est pertinent, de rentrer sur le marché en question.
Oui, typiquement, en fait, c'est ce que les entreprises vont faire. En fait, typiquement, là, un client typique pour Seven Island est une start-up scale-up, si on parle en termes TRL, là, TRL 789. Là. Donc, on est au-delà de la partie idéation. Là. On n'est pas dans le... Genre, j'ai une idée, puis potentiellement, ça pourrait être intéressant. Oui, good, mais non, pas avec moi. Parce qu'ils sont pas encore prêts à aller, sur les marchés internationaux. Allez. Donc, ces entreprises-là vont essentiellement utiliser une firme comme la mienne pour raccourcir leur temps d'acquisition, essentiellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de rapidement aller à ce qui est opérationnel, à comprendre l'information qui leur est pertinente, en fait. Donc, de savoir éviter les pièges, parce que Dieu sait qu'il peut y avoir des pièges dans ces domaines-là. De savoir aussi d'emblée quelles sont les particularités du procurement local. Ensuite, quels sont potentiellement les partenaires avec lesquels s'associer? Est-ce qu'il y a des programmes? Est-ce que qui peut finalement bénéficier, les aider au montage financier? Bon, des choses comme ça. Donc, une fois qu'on a fait cette partie-là, ça, c'est plus la partie intelligence de marché, je dirais, qui est un peu plus en amont. Après, ben, c'est d'identifier des partenaires ou des acheteurs finaux directs. Pas 75 là, sur une grande liste. Là. C'est vraiment c'est d'aller identifier là où les personnes, les quelques personnes qui sont vraiment potentiellement des acheteurs ou des partenaires. Et ben, je m'assure qu'ils puissent se parler dans les meilleurs délais. Donc, on raccourcit, en fait. T'sais, essentiellement, on avait dit à un moment donné, je pense qu'il y avait un chiffre qui circule, là, qu'on parlait de, c'est quelques centaines de milliers de dollars et 6 mois, 1 an pour faire une pénétration de base sur un marché dans certains secteurs, plus du wall use. L'idée, c'est de raccourcir ça, de le couper par 2 ou par 3, essentiellement.
C'est super intéressant. Puis là, tu parles du marché ukrainien, donc de compagnies principalement canadiennes qui se dirigent vers l'autre côté. L'inverse est aussi vrai. C'est oui. Des compagnies étrangères qui veulent venir connaître la culture ici parce que la culture du marché canadien, elle est particulière. Comme la culture du marché ukrainien aussi est particulière, mais celle du marché canadien. Et pour plusieurs compagnies, notamment ceux qui parlent les mêmes langues que le Canada, c'est-à-dire que les compagnies avec une langue anglophone ou francophone ont tendance à penser que on est un marché similaire, ce qui, dans tel cas, n'est pas tout à fait vrai. Moi, je suis plus familier avec le côté francophone qui ont l'impression que le Québec est comme la France. Essentiellement, la réalité, c'est non. Mais le milieu anglophone, c'est la même chose aussi. Ils ont l'impression que parce qu'ils parlent anglais, ils vont être facilement rentrés sur le marché canadien quand dans la réalité, autant en cybersécurité qu'en cyberdéfense et tous ces environnements-là, c'est pas tout à fait vrai.
Non, c'est pas tout à fait vrai, en fait. Puis je pense que l'exemple français est très, très bon. En fait, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui pensent rentrer sur le marché québécois, par exemple, parce qu'ils voient une extension naturelle de leur marché français local. Elles réalisent assez rapidement que c'est un autre ball game, là, disons-le comme ça. Là. Mais pour en revenir à ce que tu disais initialement, en fait, il faut comprendre, Seven Island a été créé, mais les premiers clients de Seven Island ne sont pas des entreprises canadiennes. En fait, initialement, c'était des entreprises étrangères, en fait, qui m'ont contacté pour que je les aide à connecter avec des décideurs politiques qui n'étaient eux-mêmes pas canadiens. Donc, ça s'est fait un peu à l'international de cette façon-là. Mais assez rapidement, il y a eu un potentiel là, de l'offrir pour des entreprises canadiennes qui voulaient aller à l'international, mais aussi beaucoup des entreprises internationales qui veulent aller soit à l'international ou aussi sur le marché canadien. Parce que comme tu l'as très, très bien dit, le marché canadien est vraiment spécial. En fait, l'erreur qu'on a, c'est de penser que c'est comme une espèce de marché américain en plus petit.
Je dirais, mais c'est parce que c'est parce que je l'ai entendu. C'est comme pour les Français, le marché québécois est comme une extension de la France.
C'est
complètement faux parce qu'on a des particularités. On a une des cultures. Il faut rappeler, le Canada est un très, très, très grand pays.
Oui.
Et que ce qui se passe complètement à l'est, c'est complètement ce qui se passe complètement à l'ouest.
Tout à fait, effectivement, c'est un marché qui est très... En fait, moi, je décris le Canada souvent comme un ensemble de silos, en fait. Donc, oui, on peut partir, par exemple, de Paris, aller s'installer à Montréal. On va pénétrer le silo québécois, ou même, à la limite, le silo montréalais.
C'est important de le faire, parce que même au niveau canadien, au niveau du Québec, on le trouve toujours très drôle, mais ça demeure vrai. Québec et Montréal sont deux marchés distincts.
Oui.
Mais dès qu'on va ailleurs, c'est exactement la même chose dans toutes les villes ontariennes, puisqu'on a quand même beaucoup de grandes villes ontariennes qui ont des écosystèmes cyber, sont tous dans des silos, comme on le voit au Québec, comme on le voit un peu ailleurs aussi au Canada.
Oui, puis comprendre ça à la base, ça va permettre à une entreprise de s'établir un plan de match, ou d'ajuster ses expectatives là, pour savoir, OK, est-ce que je suis prêt à rentrer sur le marché canadien? Est-ce que rentrer sur le marché canadien, pour moi, en fonction de mon produit spécifiquement, ça m'intéresse de rentrer plus, de mettre mes efforts sur Montréal ou de mettre mes efforts d'emblée sur Toronto ou sur Vancouver. En fait, il faut aussi avoir cette connaissance-là. Alors, c'est sûr que si l'a priori des entreprises outre-Atlantique, disons, c'est de « Ah oui, mais le Canada, c'est comme justement c'est un grand marché un peu homogène au nord des États-Unis qui va nous servir de soft landing idéal pour après ça, en se voyant dans 6 mois tout de suite à New York ou à Boston ou à Los Angeles ou à San Francisco. » Ben non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux gens. En fait, c'est ce qu'on essaie de on les aide à naviguer là-dedans, en fait, essentiellement.
Dans un exemple, ça parlait beaucoup plus vers le marché ukrainien. D'un exemple du côté qui de l'Europe vers le Canada, ou l'Europe, parce que c'est ces gens-là qui s'intéressent au marché canadien. De l'Europe vers le Canada, ça représente quoi comme cheminement et comme compréhension pour atterrir justement dans le bon silo, parce que tu l'as bien dit, chaque silo a ses avantages et ses inconvénients. Puis juste entre Montréal et Toronto, la différence entre les deux n'est pas la même, puisque le marché financier est beaucoup plus fort à Toronto, mais il est quand même présent à Montréal.
Oui.
Il y a l'aéronautique est très présent à Montréal, mais n'est pas présent à Toronto. Fait qu'il y a beaucoup de particularités comme ça qui rendent la réflexion un peu difficile pour quelqu'un qui n'a pas la culture.
Non, tout à fait. C'est que la première chose qu'il va falloir faire, en fait, ce que j'essaie de faire, du moins avec ces entreprises-là, lorsqu'elles me contactent, c'est de comprendre à qui je parle, en fait, essentiellement. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs un très, très petit volume. En fait, j'ose espérer sincèrement, du moins à court terme, là, puis de pas me retrouver avec 50, 60, 70 clients. Parce que je sais très bien qu'à ce moment-là, je ne serai pas capable de bien comprendre à qui je parle. Parce que c'est la base, en fait. Pourquoi? Puis je dis ça parce que ça me permet de savoir exactement, oui, c'est ça, telle entreprise veut aller sur le marché nord-américain. Souvent, les Européens vont pas voir le Canada en tant que tel. Ils vont voir l'Amérique du Nord parce qu'ils voient que c'est... Canada, États-Unis, c'est le plus gros marché de la cybersécurité, le plus gros marché de la cyberdéfense et de la défense globale. Donc, une attraction immense. Par contre, il faut le voir justement silo par silo. Il faut comprendre à qui on parle. OK, peut-être qu'une entreprise, ma recommandation, je vais lui dire, si tu veux t'adresser au marché canadien, en fonction de tes capacités, de ton produit, de ton parcours aussi, et tes intérêts à venir dans les prochaines années, peut-être que directement s'en aller à Calgary, et ce qui est le plus pertinent. Peut-être que Vancouver est l'endroit le plus pertinent, ou Toronto ou Montréal, mais d'y aller un peu en fonction de « Ah oui, parce que je connais un cousin qui habite à Montréal », ça ne m'apparaît pas être une décision d'affaires très éclairée, en fait. Mais malheureusement, on rit, mais le pire, c'est que
c'est vrai.
C'est carrément ce qu'on voit sur le terrain avec certaines entreprises, en fait.
Oui, puis ça doit l'amener beaucoup de déceptions, ça, justement, quand le contact du réel, puis j'imagine que tu as rencontré plusieurs compagnies qui ont été énormément déçues de leur contact du marché canadien.
Oui. Déçu et amer, je dirais. Et amer, et elles reviennent sur la France souvent, par exemple, si on parle du marché français, elles reviennent sur la France en donnant aux autres entreprises françaises une impression du marché canadien qui est cohérente avec leur réalité, avec la réalité qu'ils ont rencontrée, mais qui n'est pas juste, en fait, parce que ce qu'elles racontent, ces entreprises-là, essentiellement, elles font la narration de leur échec. Ce qu'elles ne racontent pas, c'est pourquoi elles ont eu un échec. Et souvent, malheureusement, c'est un petit exercice un peu difficile pour l'ego, là, c'est de dire, ben regarde, on a merdé parce qu'on n'a pas pris la peine 6 mois avant, 1 an avant, 2 ans avant de s'informer sur le marché. Essayer de le comprendre d'une façon honnête, sincère, d'essayer d'en apprécier les distinctions, les différences, puis de se dire, bon, on va s'ajuster, plutôt que de penser que non, notre produit fonctionne très bien à Paris, à Berlin ou à Londres, ben résultat, ben, ça ne peut pas faire autrement que de bien fonctionner à Montréal, à Toronto ou à Halifax. C'est pas vrai du tout, juste faux.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis tant qu'à aborder un peu ça, est-ce que tu peux parler des différences sur les silos majeurs qu'on a au Canada, parce qu'ils sont quand même intéressants. Je les mentionne un peu, mais tu as une connaissance encore beaucoup plus fine de par ton expérience.
On pourrait en parler longtemps, là, mais...
En tout cas, bref, tu l'as vu beaucoup plus longtemps que moi, là.
Ben, en fait, les différences, en fait, je dirais... Le Canada, c'est... Si on parle juste cybersécurité, parce que cyberdéfense ou Intel, c'est des marchés qui sont très particuliers, très nichés, là, puis je pense pas que ça soit...
Et très petit.
C'est
un silo, puis il est pas mal à Ottawa.
On s'entend qu'Intel, tu peux pas vendre ça trop SPVM. Là. Un peu, là, mais bon, enfin, non. Mais où je veux en venir, c'est si on y va avec la cybersécurité, ben oui, la cybersécurité, le pôle, en fait, l'écosystème, le marché, pas l'écosystème, le marché canadien de la cybersécurité, essentiellement, est en grande partie autour de Toronto. Pour tout ce qui est privé, à cause du secteur bancaire. Tu sais, Toronto, c'est quand même, je pense, la deuxième ou troisième place financière nord-américaine en importance. Donc, c'est comme un immense marché. Et on retrouve beaucoup d'entreprises là. Une compétition, par contre, immense. Il y a énormément de joueurs. Il ne faut pas penser qu'on est en attente, la bouche ouverte, de solutions de cybersécurité. Ce n'est pas vrai. Les Canadiens, by the way, sont reconnus comme étant quand même très, très compétents en matière de cybersécurité. Donc, il y a une compétition importante, mais il y a en même temps un marché immense. Deuxième pôle en importance, on pense que c'est Montréal, c'est pas vrai, c'est Vancouver. Explosion de la demande, explosion de l'offre aussi. Un écosystème vibrant, en fait, autour de Vancouver, un petit peu Victoria. Il se passe quelque chose là-bas qui est super intéressant parce qu'eux sont dans une dynamique qui est complètement différente. Ils sont dans une dynamique avec la côte ouest américaine, donc ils sont très, très innovants autour de tout ce qui est Silicon Valley, qui est à côté, en fait, littéralement, et aussi dans une dynamique qui est plus Asie-Pacifique. C'est notre façade pacifique, et eux regardent ce qui est essentiellement le plus gros marché en croissance au monde, c'est-à-dire l'Asie-Pacifique. Donc, c'est encore une fois, je le répète, pour certaines entreprises, des fois, ça peut être intéressant d'aller directement sur Vancouver parce qu'on va adresser, surtout pour les entreprises européennes, on va adresser la dynamique nord-américaine, on va adresser la côte ouest, mais aussi on va avoir déjà un footprint sur le marché Asie-Pacifique. C'est vraiment, je pense qu'il y a comme vraiment une opportunité là, qui est vraiment capotée. Donc, deuxième marché en importance, c'est le marché de la Colombie-Britannique, de la côte ouest canadienne. Après, bien entendu, Montréal. Indéniablement, un grand marché de cybersécurité qui a ses propres particularités. Un peu, je le dirais, sa particularité principale, c'est qu'il est très insulaire. On n'aime pas quand je dis ça là, à Montréal, là, mais ça reste ça. C'est-à-dire qu'on peut faire de la très, très belle business, avoir une très belle vie comme entreprise sur le territoire de Montréal ou du Québec en général, mais il ne faut pas penser qu'on fait partie de l'écosystème canadien à ce niveau-là. On fait faire partie de l'écosystème québécois. Il faut le savoir, en fait.
Et probablement même Montréalais.
Et probablement Montréalais. Oui, il y a un Montréalocentrisme là, qui compétitionne pas mal avec le Toronto-centrisme, en fait, qu'on va retrouver, effectivement. Dans les deux cas, il y a des boys clubs quand même assez soucieux de préserver leurs acquis. Autre marché qui est quand même intéressant, surtout ce qui va toucher plus au niveau de la... En fait, un petit peu plus au niveau de la défense, en fait, on va avoir des pôles intéressants. Puis je ne parle pas encore d'Ottawa. Il y a Ottawa qui est, effectivement, je l'oubliais, là, qui est un pôle important, en fait, le pôle le plus important pour le marché gouvernemental. C'est le plus gros acheteur. Toutes les récentes annonces en matière d'investissement de défense qui vont inclure en partie la cybersécurité vont faire en sorte que Ottawa va devenir probablement un des pôles les plus intéressants pour la cybersécurité au pays, voire en Amérique du Nord là, pour les prochaines années. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Sinon, ben, où je voulais en venir, ben, il y a l'Atlantique avec des endroits comme Halifax ou Fredericton qui investissent beaucoup d'argent. Beaucoup plus d'efforts que d'argent. On espère qu'à un moment donné, l'argent suive. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui se déroulent à ces endroits-là. Là. Oui, oui. Donc, ce serait pas mal les endroits là, canadiens. J'oubliais Calgary pour tout ce qui est OT. Des entreprises qui sont fortes en oil and gas, sécurité de tout ce qui est le OT dans les systèmes justement énergétiques. Calgary est le cœur au Canada, en fait, littéralement.
Oui, puis ça, c'est intéressant parce qu'ils sont un petit peu plus dans le milieu de l'ensemble de l'immense territoire canadien comme ça. Puis,
oui.
Mais en tout cas, ils présentent leur réalité culturelle par rapport à ça. Donc, si on fait un wrap-up de tout ce que tu as dit, pour une compagnie étrangère qui voudrait s'intéresser au Canada, donc c'est de justement s'informer et l'inverse. Puis là, tu as juste parlé d'Ukraine, mais est-ce qu'il y a d'autres marchés aussi?
Oui, pas mal.
Que dans quel tu couvres en termes d'expertise?
Oui, et ben oui, il y a beaucoup d'autres marchés. En fait, l'Ukraine est c'est à la limite, c'est une niche. C'est vraiment pas le principal marché là, étranger, en fait, actuellement. Il y a géopolitiquement un recadrage important du Canada à travers le monde. En fait, je pense que le monde est en train de se recadrer là, en termes d'alliance et ça transparaît dans les intérêts de faire de la business. En fait, je vous donne un exemple. On a pendant des années, en fait, jusqu'à maintenant, en fait, complètement un peu ignoré un immense marché qui est le marché scandinave. On le découvre aujourd'hui. On découvre un appétit immense des Suédois de faire des affaires avec les Canadiens. Puis ça, je veux pas dire juste, c'est pas juste, ils veulent pas juste nous vendre leur bidule. Ils veulent s'intéresser à ce que nous, on a à leur offrir, en fait, vraiment dans une dynamique, en fait, d'échange nordique où ils incluent, en fait, ils comprennent que le Canada en fait partie. En fait, puis ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, en fait, sans blague. Le mois dernier, j'étais à Stockholm. Je parlais avec des gens des clusters locaux, les gouvernements locaux. Et sincèrement, tout le monde faisait comme, mais comment ça se fait qu'on ne fait pas plus de business avec le Canada? C'est comme un non-sens, en fait, mais on dirait que tout le monde l'a réalisé. Voilà 6 mois, 1 an. Ça a pris ce qui s'est passé au sud de la frontière, peut-être pour nous le faire réaliser, notre côté très nordique. Donc oui, il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'appétit pour cette région-là, en fait, du côté des Scandinaves. Du côté canadien, je pense qu'il y a encore un peu d'apprentissage à faire. Je pense qu'il y a encore un peu Il faut l'expliquer en fait aux gens qu'il y a des opportunités là. Autre opportunité immense en fait pour lesquelles, en tout cas moi personnellement chez Seven Island, j'ai quand même beaucoup de clés, c'est tous les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. On travaille avec eux depuis de longues dates et il y a encore une fois énormément d'intérêt en fait. T'sais, moi sincèrement, une entreprise canadienne qui me dit « Ah, moi ça m'intéresse l'Europe », mon réflexe principal c'est pas l'Allemagne, l'Angleterre ou la France. C'est d'aller voir justement la Pologne, la Scandinavie, les pays baltes. Juste là-dedans, il y a un terrain de jeu immense. Il y a énormément de matière à développer, en fait, un bon territoire. Et il y a aussi beaucoup d'ouverture pour les produits canadiens, ce qu'on avait un peu moins. D'ailleurs, il y a moins de protectionnisme qu'on va retrouver dans certains des 3 pays que j'ai mentionnés précédemment, qui vont avoir des réflexes d'être plus acheter leurs trucs, alors qu'il y a vraiment une ouverture d'esprit dans les autres pays, dans les autres marchés.
Une plus grande capacité à l'échange puis au partage dans ces marchés-là.
Oui, oui, oui.
Très beau partage, justement. Merci énormément d'avoir éclairé cette facette-là. C'est surtout intéressant parce que je pense, comme tu l'as bien mentionné vers la fin, que les entreprises canadiennes ont peu de véhicules à l'étranger réellement, puis surtout dans des marchés un peu différent dans lequel on est habitué. Je pense qu'on a intérêt à s'y intéresser davantage, puis justement d'aller établir des relations fortes avec ces pays-là qui partagent jusqu'à un certain point des valeurs communes avec nous.
Ben, merci, oui, effectivement, parce que tu as raison, en fait, à quelque part, on a été chanceux pendant des années au Canada d'être à côté du plus gros marché mondial au-delà de la cybersécurité, les États-Unis. On a eu cet accès-là privilégié, donc ça a généré quoi? Ça a généré énormément de bénéfices pour nos entreprises, mais en même temps, énormément de paresse. Donc, on est très peu curieux, puis on n'a pas eu ce réflexe-là jusqu'à tout récemment de dire, ouais, mais minute, là, peut-être que le marché nord-américain, c'est plus un bon marché pour nous. Puis peut-être qu'il faudrait voir ailleurs, en fait. On commence à le faire, en fait. Mais il y a énormément de... La courbe d'apprentissage risque d'être un peu rude pour des entreprises en cybersécurité canadiennes qui n'ont pas eu, justement, ces réflexes de s'outiller, en fait. On va essayer de les aider là-dedans, en fait. C'est un peu ce que fait Seven Island.
Super. Merci beaucoup.
Plaisir.